La quantité aussi devient qualité. On sait que c'est un des principes aussi du 19e siècle, puisque, par exemple, la construction métallique, que ça soit la tour Eiffel ou l'avenue du Travail, etc., c'est l'idée d'utiliser les mêmes tronçons, la production en série de poutrelles métalliques et les assembler par mécano. C'est cette idée, tout à coup, aussi du standard. C'est très moderne, cette idée que eh bien, produire en quantité n'est pas forcément antithétique avec la qualité, avec une certaine esthétique. Mais c'est un art d'ingénieur dans un premier temps. Rodin, lui, reste dans la pierre, dans la sculpture, assez classique et traditionnelle. Mais enfin, vous voyez que ce sont des problématiques alors, que l'éclectisme aborde en essayant de chevaucher la technique pour cela, et qui culmine un peu à la fin du 19e siècle. On le voit ici. Donc, merci de m'avoir signalé ça. Ça m'a permis de parler d'eux. C'était tout à fait dans la conclusion un petit peu du chapitre précédent. Alors, je reviens à Corot. Alors, attendez, Corot, c'est là. Et on était toujours en unité des chemins. Alors, principe doucement d'avancer, de voyager. Alors, juste une chose sur Corot, enfin une chose, plusieurs choses, il a vécu relativement vieux et c'est assez difficile parfois de dater ses pérégrinations, parce qu'il a fait plusieurs voyages en Italie, il a parcouru la France effectivement, donc, et sans qu'il y ait une différence très très notable dans sa facture. Alors, il y en a un peu, mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui est aussi un peu un intuitif, il n'est pas un théoricien du tout. D'ailleurs, il est difficile à caser, parce qu'il a cette espèce d'originalité. Mais l'idée, quand même, de fuir un peu la ville, de retrouver la nature, alors qu'il est parisien, c'est vraiment un parisien, qui a un milieu très aisé. D'ailleurs, il va vivre essentiellement de l'argent de ses parents et ensuite des rentes. Hein. Et puis, assez vite aussi, il va vendre, il aura un gros succès. On verra par la suite, d'ailleurs, qu'il était très généreux, il va soutenir beaucoup de ses amis dans la difficulté. Hein, c'est quelqu'un qui est aussi une personnalité très attachante. Alors cette idée, on l'a vu, des chemins correspond tout de même à une vieille tradition, à un modèle de la peinture, c'est l'idée de la fenêtre. C'est l'idée que la peinture, on dirait presque jusqu'à Corot et d'autres, c'est quand même une trouée. C'est un ailleurs vers lequel on désire aller. Donc c'est surtout depuis la perspective, c'est dit qu'on est invité à aller au-delà, hein, exactement comme le principe d'une fenêtre. Et Corot joue sur ce désir, hein, sur cette idée de profondeur, de façon systématique. Alors, il y a toute la dimension un petit peu poétique, hein, de la marche tranquille. En plus, là, c'est des chemins qui sont des chemins souvent piétons. Hein, ce n'est pas tellement des grandes avenues carrossables. Et ça, c'est assez clair. Alors, vous avez, évidemment, dans ces chemins aussi, parfois, des monuments, on l'a vu en Italie, on va le voir aussi en France, le chemin aussi peut avoir un but parfois, et ça peut être une destination tout d'un coup qui est récompensée quelque part par la beauté de certains bâtiments. Alors évidemment la Chartres, hein, mais on voit il y a toujours cette distance comme ce qui mettait en scène un peu le désir encore. Il reste des moments à accomplir pour arriver jusqu'au bout. On voit souvent sur ces chemins, et vous le verrez par la suite aussi dans plusieurs de ces peintures, des petites figures humaines, sans qu'il y ait forcément une narration, il ne va pas introduire, enfin, parfois il le fera plus tard, mais des éléments narratifs avec des personnages. Il n'y a pas de titre relatif aux personnages d'ailleurs, mais on a l'impression qu'on peut s'identifier à ces personnages qui sont dans une certaine lenteur, qui se posent, qui regardent, qui contemplent. Ça nous amènera au deuxième thème sur Corot, c'est la question de la contemplation, après le chemin. Et voilà, alors on va continuer un petit peu justement à cheminer parce que ça vaut le coup. Alors ici, Marc aussi, il va faire plusieurs fois. Donc à gauche, alors je crois que vous disiez l'autre qu'il y avait des chemins Corot, Marc aussi, on peut retrouver les lieux. Certains en plus n'ont pas dû changer énormément parce que même, la campagne n'a pas dû changer, etc. Les lumières en tout cas sont toujours les mêmes. Et vous voyez que ça soit Troyons, Ville d'Avray, où il a vécu beaucoup, on va retrouver cette même thématique, avec aussi ces chemins, cette notion de surprise, parce qu'on ne voit pas là les guides du chemin, souvent il y a une colline, il y a une petite bosse, il y a un virage, il y a quelque chose qui donne justement envie peut-être d'aller plus loin. avec quelque chose qui est très poétique aussi, c'est le premier plan. On voit le chemin, et puis un lointain, quelque chose qui est vraiment très beau, très lointain. Alors je peux zoomer un peu, parce que l'autre jour, effectivement, je réalisais qu'en... D'ailleurs, j'ai un peu modifié par la suite, en faisant uniquement des panneaux avec quatre peintures, on ne rentrait pas forcément suffisamment dans chaque peinture. Alors ce que Corot, là, on voit dans sa touche, on l'avait vu déjà la dernière fois, et est intéressant aussi parce que c'est quelqu'un de très libre, en fait. D'abord parce que le thème du paysage, c'est un thème qui est peu valorisé, qui était valorisé, c'est pas un hasard, d'ailleurs, dans le 17e bourgeois flamand, hein, mais en France, ça n'avait quasiment jamais été traité comme tel. Donc Corot est vraiment un des premiers à traiter le paysage comme un sujet, en plus des paysages non spectaculaires, des paysages extrêmement... simple. Quand il y a des monuments, ils sont là presque discrètement. Et cette liberté qu'il a dans le thème, dans le format, qui n'est pas très grand, ça se trouve aussi dans la manière de peindre, puisque il ne va pas être dans la précision forcément. Alors, précision au niveau du dessin. Il est dans une précision exceptionnelle au niveau de la couleur, de la lumière, hein, les tons, les valeurs, etc., qui sont d'une délicatesse extraordinaire. Mais si vous regardez bien, on n'est pas... Là, il y a des effets presque de flou, hein, qui sont très clairement assumés. Et là, à chaque fois, quoi quand on regarde ici, même, etc. Ce n'est pas un effet là, des pixels, hein, c'est la patte de Corot qui sait justement traduire cet effet de légèreté du flou. Alors j'aime beaucoup ces deux-là, ces petits moulins. Attendez, je vais mettre sur le diaporama. Un peu mieux. Ah ben non, c'est comme ça. Alors là, vous voyez, c'est le chemin qui monte et puis hop, rien derrière, qui tourne. Et puis les cieux, les structures aussi, on l'a vu dans ses croquis, on reverra ses croquis. C'est un artiste qui est capable aussi de composer. C'est là où il est fort, parce qu'il y a à la fois la percée, si vous voulez, du chemin, la profondeur, mais tout en suggérant une très grande profondeur du premier plan jusqu'au cieux ou au lointain. Il compose aussi sa peinture en masse, hein, en surface. Et on l'a vu dans les croquis l'autre jour, comment est-ce qu'il était capable justement d'occuper le rectangle de sa composition. D'abord, les ailes du moulin vont occuper le ciel, les nuages, les ombres, hein, qui vont faire des grandes diagonales, là, qui vont faire qu'il y a la trouée perspective, mais il y a aussi des surfaces qui sont pensées. Ça, c'est clair. Alors, je continue, hein. Ceci, comme vous voyez, ce n'est pas du tout chez lui anecdotique, c'est vraiment un principe, hein, c'est quelque chose. Alors, il a peint énormément, donc j'ai réussi, j'ai pas tout, j'en ai récupéré plein, mais il y en a encore plein d'autres à voir. Alors là, celui d'en bas est absolument magnifique, hein, avec l'eau justement qui ramène le premier plan, les arbres dépouillés. Et toujours ces petits personnages qui se baladent, où on a envie de les accompagner. Il y a une paix, une sérénité, toujours, quel que soit le climat. Alors, par contre, tu vois qu'il y a très peu de neige et d'hiver. Et puis aussi, quelque chose qui est subtil, c'est l'utilisation, on le verra plus tard, du vert, du gris et du brun, hein, qui sont, que Manet va reprendre plus tard, hein. C'est une association assez complexe, normal dans le paysage, on va dire le vert, le gris, le brun, le ciel gris, le vert et puis la terre brune. Mais c'est assez compliqué parce que justement, ce sont des couleurs au sens strict qui sont monotones. C'est le même ton. Si on passe en gris, il y a peu de contraste. Pour faire du contraste, il faut du bleu, du rouge, du jaune, hein, des couleurs primaires. Mais là, on est des couleurs binaires du vert et sinon le brun et le gris qui sont effectivement des couleurs ternaires ou gris coloré, etc. Qui vont être un peu atones, peu de contraste. Donc ça oblige à des très fines nuances, si on veut de la profondeur, et Corot saura donner une légère dimension, on le verra tout d'un coup, de contraste coloré par des petites touches de bleu, et parfois, il le fera presque systématiquement, avec des toutes petites touches de rouge, comme ça, l'air de rien, par contraste, éclair, donne une petite touche de contraste qui révèle un petit peu les ambiances un petit peu, au sens strict, monotones. Donc c'est aussi un grand coloriste et qui trouve cette solution de façon intéressante. Alors, voilà Corot jeune et Corot plus âgé. Hein, donc, il est décédé à 80 ans, pas loin. Et, juste quand même, l'hommage de certains suiveurs, hein, il est toujours le plus grand, il a tout anticipé, dit Edgar Degas. Il y a un seul maître, Corot, nous ne sommes rien en comparaison de lui, rien. Donc, quand même, Degas et Monet, Degas, c'est d'autant plus stupéfiant. On verra tout à l'heure quelques paysages de Degas, qu'on connaît peu de paysages de Degas. Hein. Et Degas, malgré tout, qui était un remarquable critique d'art, hein, qui sera très, très sensible et très fin sur ses contemporains, on aura un hommage appuyé à Corot. Et on voit aussi Monet. Alors, Monet, c'est plus logique, hein, parce que c'est quand même l'art du paysage, et puis et beaucoup, il y aura beaucoup de points communs, mais c'est quand même remarquable. Et donc, et même longtemps après sa mort, hein, donc, si vous voulez, les artistes, les peintres qui l'ont suivi ont su voir dans Corot des portes qui s'ouvraient dans la manière de peindre, dans les sujets, etc. Alors on verra plus tard, on verra Monet, etc. Alors, là, je vérifie. Oui, alors, Corot, ça c'est assez rare, mais comme il est aussi malin, pour vivre quand même, il fait des sujets souvent bibliques, ou qui va comme ça, qui sont plus faciles à passer au salon, etc., ou à vendre, pour avoir des commandes. Et là, c'est une scène biblique, Agar dans le désert. Alors, je pense que c'est comme une scène biblique, j'ai oublié. Donc, mais on voit que là, vous avez ici une femme sur c'est qu'un enfant mort dans le désert. Ça donne comme ça un titre, hein, parce que les paysages pour eux-mêmes étaient souvent considérés comme des œuvres mineures. La tradition académique, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une gradation dans l'ordre des sujets. Les sujets les plus élevés, c'était les sujets religieux, historiques, mythologiques. Puis venaient ensuite les portraits. Puis ensuite, effectivement, les paysages, les natures mortes. Celui qui était considéré comme des sujets mineurs et qui avaient, y compris, des dimensions mineures. Si vous mettez un titre mythologique, tout d'un coup, d'abord, vous travaillez en plus grand, c'est plus considéré comme une œuvre d'art, parce que ça va pousser à l'interprétation. Le paysage ne dit rien d'autre que lui-même, il n'y a pas d'interprétation. Dès qu'il y a Agar dans le désert, on va interpréter la lumière, le soleil couchant, etc., la topographie, etc. On note, ceci dit, qu'il utilise un soleil couchant, ce qui fait quasiment jamais quand il fait des paysages. Là, tout d'un coup, il y a un effet effectivement de narratif, c'est-ce qu'il se passe quelque chose si le soleil se couche. Quand on est en pleine journée, on peut dire qu'il n'y a rien de particulier. Donc, avec Corot, il y a cette espèce de capacité, cette audace à ne pas raconter l'histoire. Et il se trouve que tout à l'heure, j'écoutais une émission sur Flaubert, qui est son contemporain, et on dit aussi que Flaubert est capable de, dans l'éducation sentimentale, c'est pas de 48 à 70 à peu près, de rien raconter, justement. Hein, à chaque fois, ben, en fait, c'est de l'anti-roman, quasiment. Donc cette idée d'aller explorer des pratiques artistiques où on n'est pas dans le spectaculaire, la narration, l'anecdote, c'est aussi quelque chose que certains artistes recherchent et qu'ils justifient en questionnant de plus en plus la manière, la forme, le style littéraire par exemple, ou justement la manière de peindre, puisque c'est ça qui est peut-être le plus important. Alors juste aussi pour montrer un grand contemporain anglais, hein, c'est... John Constable, qui lui reste assimilé au romantique anglais à cause surtout de l'humidité, des nuages, de l'espace, cette espèce de aussi des monuments un peu fantastiques comme la cathédrale de Salisbury, et qui lui aussi est un grand inventeur de forme. Là, le paysage anglais entre Turner et Constable est assez remarquablement exprimé. D'ailleurs, je crois qu'il doit y en avoir au Luxembourg à l'exposition sur les peintres anglais. Ça vaut le coup. Mais là, vous avez donc autour de Corot, vous avez aussi des grands contemporains. Alors, Constable, lui, travaille au contraire dans des touches extrêmement petites, d'une précision incroyable, et avec des superpositions presque de d'écailles de peinture prodigieuses. Si vous voyez la charrette coincée dans le guet, là, c'est prodigieux d'une technique. Alors, pré-impressionniste, parce que c'est des petites touches superposées, une très très grande finesse, hein, comme presque autant de gouttes de pluie. Hein. Il y a l'humidité chez Constable qui est remarquable. Juste un truc, ce qui est beau, c'est que quand on raconte un... Ah, Salisbury, c'est toujours la même vision, parce qu'il n'y a pas de construction autour de la cathédrale. Alors, on va voir maintenant chez Corot autre chose, parce qu'au bout du chemin, eh ben, parfois on s'arrête et on contemple. Et donc vous avez un autre Corot, le Corot des chemins, on va dire, et puis il y a le Corot de la contemplation, qui s'arrête et qui regarde. Qui s'arrête et qui regarde. Et là, par exemple, au premier plan, bah, vous avez de l'eau, parce qu'on ne peut plus avancer. Et on se pose, et on est apaisé, et on laisse la lumière, quelque part, venir à vous, et les bâtiments, et cette ambiance se réveiller. Alors, ça se justifie aussi, hein, avec sa patte, justement. Alors, c'est bête à dire, mais on pourrait presque le dire quand même. C'est une touche un peu lente, si vous voulez. On voit que... Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de petites touches nerveuses, il n'y a pas de hachures, etc. On a l'impression que Corot prend son temps pour poser ses touches, pour regarder avec une certaine lenteur. Alors, il cheminait avec une certaine lenteur, et quand il regarde aussi, vous avez une tranquillité remarquable. Là aussi, pas d'événement. Les monuments ne sont pas présentés ici de façon spectaculaire, mais même si on est en ville, il s'agit presque d'un paysage urbain. Et on pourrait dire qu'en ville, la logique serait de mettre en place des perspectives, des rues, des monuments, des volumes. C'est pas l'option qu'il choisit. Et la plupart du temps, au contraire, hein, puisqu'on a cette idée d'une ville un peu lointaine. Alors ça, c'est une île sur le Tibre. Alors, il y a Rome, évidemment. Il y a évidemment toute l'Italie, on peut dire. Hein. Et là encore, vous voyez, que ce soit les arcades qui forment un premier plan. Alors, le mur au premier plan, le château Saint-Ange. Alors, à propos justement, j'en viens à des questions théoriques, si le chemin c'est la profondeur, hein, eh bien la contemplation, et là ce qui est le premier plan, c'est la muralité, c'est la planéité. C'est quelque chose justement où on n'avance plus, on est en arrêt devant une sorte d'écran. Et là, vous avez une autre théorie artistique, c'est, j'en ai déjà parlé, est-ce que c'est plat ou est-ce que c'est profond? Et la peinture, elle est toujours entre ces deux pôles, de la fenêtre ou du mur. C'est la réalité plane du tableau, réalité physique, hein, et la profondeur. Alors, c'est intéressant parce que Corot l'aborde de façon intuitive, hein, c'est pas du tout un théoricien, mais ses suiveurs vont parfaitement le comprendre. C'est que si vous travaillez sur une illusion de profondeur, eh bien, vous allez avoir tendance à faire oublier un petit peu la matière peinture pour privilégier la transparence, etc. Si au contraire, vous travaillez sur la surface, eh bien, les qualités de surface, ben, c'est les touches, etc., les plans, même le geste, vont être beaucoup plus révélés. On verra ça avec Manet, évidemment, c'est lui qui va forcer le trait, c'est le cas de lui, sur cette question-là de la surface. On avait vu Courbet l'année dernière, Manet, ce sont des gens qui vont explorer justement la qualité de surface. Et Corot le fait intuitivement avec au premier plan des surfaces, des rectangles, que l'on voit là, hein, où tout d'un coup, il y a évidemment une profondeur par la lumière, mais quand même, les premiers plans, ce sont des surfaces, et là aussi, vraiment donc des plans, hein, avec la contemplation que l'on va voir. Alors, évidemment, Venise, c'est un peu autre chose, mais il y a quand même le rectangle avec les cadres des colonnes. Alors là, Venise, il y va plusieurs fois, et c'est là où on voit peut-être aussi ces différences dans les manières de peindre. Ici, on est dans quelque chose de plus classique, on voit peut-être le jeune Corot, je pense, hein, on est un peu dans une description, pas anecdotique, mais dans le détail, alors que dans d'autres de ses peintures, là, on commence à avoir des qualités de surface et des plans très modernes. Bon, juste une chose, hein, si vous aimez bien des gens comme Hopper ou Marquet, Albert Marquet, par exemple, ou Edward Hopper, sont des gens qui sont en droite ligne, hein, de cette vision, un petit peu, auprès des surfaces, des lumières, de cette lenteur, des ombres qui sculptent un petit peu les monuments, et qui sont des artistes, c'est marrant, qui sont toujours un petit peu en marge, mais qui résistent complètement aux modes, parce que je pense qu'ils répondent à une sensibilité, à une sensation, hein, universelle, devant le paysage. Et le fait de ne pas raconter fait aussi que, justement, ça rend universel leur point de vue. Alors, Venise, on le voit, là, alors l'eau au premier plan, C'est aussi cette idée que, bon, même si sur l'eau à Venise on peut avancer, il y a quand même cette idée qu'on ne peut pas marcher, hein, donc on ne peut pas vraiment cheminer de façon continue, obligé de s'arrêter, de regarder. L'eau et le reflet ont aussi une qualité paradoxale et très intéressante. Je ne vais pas spoiler, mais évidemment, Monet saura le voir. C'est que sur l'eau, vous avez l'image inversée. Donc en fait, au lieu de voir un chemin, vous voyez l'image. C'est que vous avez presque un plan qui s'affirme par le reflet. Vous avez une continuité du ciel et de l'eau, puisque c'est la même qui se reflète. Et l'eau, c'est vraiment une surface où il y a une image. Donc c'est comme la peinture. C'est une surface où il y a une image. Donc, les qualités de surface ici sont progressivement, peut-être pas, c'est pas pensé clairement, je sais pas, il va jamais écrire, ni dicter quoi que ce soit. En tout cas, il le pense en le faisant. Et d'ailleurs, là encore, vous voyez les techniques de Corot. Ici, par exemple, on est dans une sorte d'esquisse. Là aussi, c'est intéressant avec Corot, c'est que la frontière entre l'esquisse, l'étude, et puis l'œuvre achevée va tendre à se diminuer. Puisque, après tout, si l'idée n'est pas d'avoir une description trop précise, eh bien, la suggestion de lumière par la peinture est supérieure à la définition précise des bâtiments. Alors Venise y va plusieurs fois, etc. Volterra, alors toujours l'Italie, hein, Volterra, ça c'est pareil, c'est hein, okay. Une magnifique cité médiévale dans laquelle il y a une très très belle bibliothèque, des tombeaux étrusques, etc. Si vous voulez aller en. C'est un très beau site. Et là, on voit Volterra, c'est pareil. Cette fois-ci, on ne voit presque plus de chemin. Hein, et comme s'il s'arrêtait dans la colline en désirant la ville. Donc il y a une sorte de tension très belle aussi dans la contemplation. La nécessité parfois de s'arrêter pour faire le point, au sens strict, hein, mais presque pratiquement, et puis sur le point sur son désir, son envie d'aller là-bas, et puis profiter un petit peu aussi de cette distance. Là, c'est. Alors, ces peintures sont lourdes. Beaucoup hein, sur Volterra, vous pouvez y aller, il n'y a personne. Je ne sais pas si vous êtes allé, c'est ça là, bateau, Corot, Chardin, il n'y a personne. Tout le monde est à côté. Donc, on entend le bruit même des parquets qui craquent quasiment, c'est génial. Alors, il faut y aller avant qu'il y ait une expo Corot, parce que s'il y a une expo Corot, tout le monde
est foutu.
On ne pourra plus rien voir. Et alors là, vous voyez ce que je dis aussi sur les masses de gris, de vert, de brun, hein, avec évidemment le bleu qui vient en contrepoint. Alors, le voyage en Italie, on va le voir avec plusieurs scènes comme ça de contemplation, voilà, il n'y a pas de chemin. Alors, ce que j'ai pas dit, et j'aurais dû le dire, c'est qu'il n'y a pas d'abord les chemins, ensuite les visions. En gros, combiné les deux. Là, j'ai séparé à chaque fois les deux aspects de sa peinture, mais tout en cheminant, il s'arrête pour contempler, etc. J'ai séparé pour qu'on voit bien qu'il y a effectivement chez lui deux pratiques qui sont différentes. Par exemple, celle-ci, hein, on verra d'ailleurs, va le rapprocher de quelqu'un qui est plus jeune que lui, mais qui sera aussi grand en Corot à un mètre. Ils vont même travailler un peu ensemble, c'est Courbet. Hein, Courbet qui, justement, en travaillant sur les falaises, en travaillant sur la frontalité, et évidemment ensuite Cézanne. Cézanne avec les falaises, etc. Donc vous voyez qu'il a des intuitions picturales et aussi l'idée de sujets qui sont vraiment minimalistes, comme par exemple la cascade, on a vu les sources de la Loue de Courbet l'année dernière, les falaises aussi de Courbet, là, on est presque dans quelque chose, là encore, de minimaliste, assez très intéressant. Et toujours l'arrêt. Hein, alors, même devant la ville, c'est là aussi sur Rome, je ne vais pas répéter 10 000 fois ce que je dis, je suis en diaporama. Avec toujours ce skyline, comme on pourrait dire, hein, les silhouettes des toits, etc. Comme si ça n'intéressait pas forcément d'y aller. Alors, il n'est pas romantique, dans le sens de l'envol, de la solitude, de la tragédie, mais il y a une poésie aussi là, de la réserve, de la solitude, quand même. Mais une solitude sereine, ce n'est pas une solitude tragique. Et avec quelque chose qui est beau aussi dans ces villes que l'on voit, c'est l'idée qu'après, il nous présente cette espèce de vision qui est universelle. Ensuite, l'expérience qu'il aura de Rome, elle est personnelle, il ne va pas la peindre. Donc on ne sait pas très bien comment lui, ensuite, dans la vie ou dans les lieux, il va vivre les choses. Ce qu'il met en scène, c'est cette approche, cette contemplation qui peut être partagée. Ensuite, l'expérience précise, elle peut être singulière, celle de chacun, etc. Alors, ces vues sont intéressantes parce qu'à Rome, en Italie, ce qu'il découvre, c'est l'ocre. Hein, donc, ça aussi, c'est la beauté des terres, des briques ocre qui sont une justification colorée. On voit que souvent Corot, d'ailleurs, a des grandes masses colorées, des harmonies colorées assez homogènes. Il y a souvent des dominantes, le vert, l'ocre, parfois le bleu, etc., gris, et tout ça en délicatesse. Alors, un autre lieu qui sera chez lui un sujet de contemplation remarquable, c'est évidemment c'est Fontainebleau, hein, puisque Fontainebleau, Barbizon, Bourg-Marlotte, ce vont être des lieux dans lesquels Corot va s'installer. Va faire venir aussi des amis, viendra aussi avec des amis. Alors la forêt de Fontainebleau est très propice d'abord à l'homogénéité colorée. Il y avait les grandes allées qui commençaient à être faites, puisqu'elles ont été faites sous Louis-Philippe. C'est surtout des grandes allées pour la chasse, etc. Puis aussi. Mais si vous voulez, vous avez aussi tous ces chaos qui font que on s'arrête, on regarde, vous avez des points de vue, vous avez des premiers plans, vous avez harmonie colorée, et puis une certaine solitude, une tranquillité loin de Paris, hein, loin des grandes villes, dont on a vu ce qu'elle pouvait avoir de moderne, de brillant, de prétentieux, de tendu, etc., de minéral, d'artificiel de plus en plus. Donc vous avez aussi dans la forêt quelque chose qui est un retour à la nature. Hein, juste une autre chose, j'y reviendrai plusieurs fois sur Fontainebleau, mais la forêt de Fontainebleau a été sauvée de l'industrie par les peintres. Hein, et par notamment Georges Sand, Victor Hugo, entre autres, qui, à la fin du 19e siècle, vont faire des pétitions en justifiant que la forêt mérite d'être préservée, puisque les peintres ont su la peindre. Les peintres ont su montrer que la forêt était un lieu particulièrement remarquable. Et donc, ils ont arrêté l'exploitation industrielle de la forêt de Fontainebleau. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, le gris, on voit aussi quelque chose qui est une thématique intéressante, c'est les rochers, hein, de grès gris dans la forêt. Donc, on est aussi dans le brun, le vert, le gris, toujours, avec la nécessité de travailler les nuances, comme on le voit ici. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, parce que là, je ne sais plus, justement, il y a... C'est toujours lui, parce qu'en fait, il y a... Alors, toujours Corot. Alors là, vous avez, justement, on voit des petits personnages qui sont assis. Là, par exemple, cette scène est très belle avec cette jeune femme qui lit tranquillement au bord d'une mare de la forêt. Alors, j'aime bien, parce que j'habite quasiment dans la forêt. J'y vais hier soir, j'étais encore... J'aime bien, par contre, je reconnais quasi. C'est dur de retrouver les lieux. Là, vous avez encore... Alors, ça évolue, surtout qu'elle est plus boisée maintenant qu'avant. Parce qu'il y avait beaucoup de carrières, des boutons, il y avait des landes, et donc il y a beaucoup de choses qui ont été plus boisées. Donc, il y a des... Là, par exemple, c'est des endroits qu'on ne voit quasiment plus parce que vous avez eu beaucoup de plantations. Mais on est vraiment dans somptuosité des tons, hein, délicatesse, et puis toujours cette tranquillité. Alors, c'est drôle, hein, quand on voit, il y a beaucoup d'artistes à cette époque qui ont redécouvert aussi la forêt, et même des écrivains. Par exemple, Stevenson va faire des nouvelles dans la forêt de Fontainebleau. Je crois que Barbet d'Aurevilly, je ne sais plus aussi, etc. Et ils décrivent déjà même des attitudes qui sont presque un peu babacool, hein, de gens qui fuient la modernité et qui se plaignent déjà que dans la forêt de Fontainebleau, on entend le train arriver. Donc, maintenant, il y a les motos le dimanche, etc. Voilà. Mais vous voyez que c'est derrière aussi le sujet de la forêt, il y a une attitude qui comporte une vision du monde moderne et de sa nécessité parfois de s'en isoler. Alors, celle-ci est assez exceptionnelle dans la qualité, dans la précision. Donc, et vous voyez les grilles, etc. Celle-ci est très belle aussi avec le petit chien qui semble être une sorte de compagnon de contemplation. Hein. et l'infinité. Alors, la forêt, je ne vais pas en parler trop parce que j'aime beaucoup aussi, mais vous avez une diversité, y compris des essences, hein, des terres, des terrains, des sites, qui fait que c'est un monde quasiment entre les châtaigniers, les hêtres, les bouleaux, les chênes, les grands conifères aussi, tantôt les bruyères, les fougères, etc. C'est vraiment les plaines, les platières, ou même au contraire les petits ravins, etc. C'est remarquable. Alors, cette lumière aussi, donc on peut dire qu'il redécouvre, hein, comme on dit, il invente la forêt, et alors c'est là où je ne sais plus, il y a un autre artiste qui va s'allier à lui. Bon, alors voilà encore Corot. Alors vous voyez ces variations, j'ai regroupé un petit peu par thème là sur les rochers. Alors là justement on voit les landes, hein, et les platières où il y avait peu de plantations, maintenant il y a beaucoup de boulons et de pins dans ces endroits-là. Hein, et souvent ces personnages qui sont là. Et alors berger, alors beaucoup de bergers, etc. Puisqu'il y a. C'est un truc tout bête, j'ai des amis qui. Maintenant ils font plus trop, qui cherchent des détecteurs de métaux. Et dans la forêt de Fontainebleau, ils ont trouvé des dizaines et dizaines de dés à coudre et de clochettes.
Ah oui,
les clochettes de moutons, les dés à de bergères
qui brodaient,
en attendant, etc. Et vous avez aussi les carriers, hein, les carrières qui sont énormes. Donc il y avait une activité quand même importante dans cette même forêt. Il n'y avait pas que les grimpeurs, les touristes et autre chose. Donc, alors vous voyez, et il y a justement, là vous voyez quelqu'un en train de boucler, il y a les visiteurs. Ça c'est la plaine de la Sole, là où il y a l'hippodrome maintenant. Vous avez aussi les premiers touristes, hein, le Touring Club va naître à Fontainebleau d'ailleurs, cette idée de redécouvrir que le paysage et la nature sont des sujets et sont pas uniquement des lieux de travail, hein, ne sont pas forcément spectaculaires et qu'on redécouvre une nature, on va dire, originelle. Hein, ça et cette forêt-là semble répondre à ces sortes de besoins. Hein, c'est pas l'attitude romantique, c'est posé, hein, c'est plus rationnel, mais c'est très clair. Et puis, une nature aussi, dans toute sa force et sa puissance, comme les chaos, hein, de grès qui sont ici. Vous voyez que donc Corot trouve aussi la forêt une multitude, toujours d'harmonie colorée, puis toujours sur ces questions, le gris, le brun, l'ocre, etc. Le bleu qui sert un petit peu de contrepoint. Jamais de soleil couchant, jamais de choses comme ça. Alors, on reviendra à la forêt de Fontainebleau plus tard. Alors, autour de Paris, il va aussi explorer les régions. Alors, souvent, c'est accessible aussi par train. Hein, donc, il va s'installer à la ville d'Avray, je ne sais plus exactement sa ville, mais il voyage beaucoup, lui. Hein, il va dans le sud, on verra qu'il ira même dans le Bordelais, etc. Celle-ci est remarquable aussi, c'est une des plus connues. Et elle est notable, comme je dis, à propos de la composition. Hein. Alors, elle réunit à peu près tout ce que je dis. D'abord, les tonalités gris, vert, brun, la touche de rouge très délicate du bonnet du pêcheur, qui fait une sorte de toute petite goutte, comme celle qui va révéler le reste. Si vous l'enlevez, effectivement, c'est plus terne, elle émaille, parce que c'est la couleur complémentaire du vert aussi, donc il sait très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, en Italie, quand il va jouer avec l'ocre et le bleu, c'est des couleurs complémentaires, le bleu et le jaune orange. Donc, si vous voulez, là, c'est un coloriste très subtil, parce qu'il le fait avec très grande discrétion, il le fera presque systématiquement. Et puis, vous avez aussi ces arbres au premier plan qui vont occuper justement la surface, le premier plan du tableau, qui vont donc composer. On n'est pas uniquement dans la profondeur, il y a aussi un travail sur la composition, sur ce qu'on appelle la frontalité. Et je pense que Corot, la fois que je le vérifie, le fait sans avoir vu encore l'estampe japonaise. Mais on sait que ça sera un des grands trucs de l'estampe japonaise que Van Gogh et Gauguin vont reprendre plus tard, c'est l'utilisation des grands arbres au premier plan qui découpent, hein, et qui font une construction originale. Et puis le pont qu'il utilise non pas en perspective ici, mais aussi frontalement, avec le gris, l'eau, puis cette espèce de tranquillité remarquable, de permanence. Alors ça, vous l'avez vu, c'est tard, hein, c'est que Corot, c'est très homogène, hein, sauf peut-être à la fin de sa vie, on verra avec ses rêveries, ses souvenirs, mais ça, c'est avantageux. Alors, là, c'est Marcoussis, hein, d'ailleurs. Hein. Ici, alors, j'aurais pas dû mettre celle du dessus, puisqu'elle est, en fait, je reviendrai plus tard, elle est de nature mythologique, avec les baigneuses, et on verra plus tard qu'il va utiliser des thèmes un petit peu mythologiques comme Orphée, etc. Mais, et là, vous avez le thème des baigneuses. L'air de rien, quand même, vous avez, quand il met les personnages dans la nature, c'est toujours aussi une dimension bucolique, au sens premier du terme, c'est-à-dire une harmonie de la nature. C'est quelque chose que, plus tard, on verra, mais Gauguin, Matisse vont apprendre délibérément, hein. C'est une sorte de nature positive dans laquelle il est bon de se ressourcer. C'est exactement le cas ici. N'oubliez pas qu'on est dans une révolution industrielle et technique d'une violence et d'une rapidité prodigieuse. Hein. Et là, là encore, vous voyez les petites touches colorées, le rouge et le jaune, qui viennent avec des micro-touches hein, qui sont très très fines. Ce que l'on voit aussi, c'est le flou. Alors ça, c'est lui qui va inventer une manière de mettre par touche extrêmement délicate sur des fonds, avec des gestes, on ne s'en rend pas compte quand on regarde de loin, mais des gestes très variés. Parfois c'est frotté, on a presque l'impression que c'est presque fait à l'éponge ou au doigt. Il y a des branches qui sont presque dessinées, on dirait, à la pointe du pinceau. Et puis vous avez des petites écailles comme ça de peinture qui viennent se poser avec une efficacité, alors là, redoutable. Il est capable aussi, ce qu'on verra plus tard chez Cézanne, d'accompagner parfois par un trait, de l'interrompre pour le remplacer par de la lumière, ce qui donne l'impression que l'arbre n'est pas été dessiné, mais il n'est pas cerné. Hein, et c'est là encore une très grande finesse et grande délicatesse. On comprend que ces pères l'aient effectivement presque vénéré. Alors la France, hein, donc, il utilise, oui, comme en Italie, hein, on va retrouver à peu près, il voyage hein, un peu partout, on voit La Rochelle, on voit la Chapelle. Ici, je crois que c'est du côté d'Orléans. Ça, c'est toujours Fontainebleau aussi, je crois. Et toujours son travail de frontalité. Regardez au premier plan des rochers. Là, un mur. Là, cette fois-ci, il n'y a quasiment pas de chemin. Là, non plus, c'est un champ et des lointains. Alors, je continue. Alors, Mantes, hein, c'est toujours le pont de tout à l'heure. Hein, avec le monument qui est discrètement derrière le flou. La bergère, toujours une rouge et jaune, donc il a un vocabulaire qui fonctionne très bien, hein. Et alors je veux dire qu'il, je sais pas, c'est un peintre passionné, donc il passe son temps à peindre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension solitaire chez lui, mais pas que, pourrait-on dire, puisque très vite presque tout le temps, il s'associera avec d'autres, hein. Donc je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Alors la Mantes et Montlhéry, hein, à côté, donc la tour de Montlhéry, qu'on voit toujours, etc. Et on peut dire symboliquement, l'arbre aussi fait un peu barrière hein, entre le regard, il accroche, il occupe le premier plan, et puis il y a toujours cette espèce de désir du mouvement qui est derrière, qui est une sorte de promesse, mais qui n'est pas encore, on ne peut pas épuiser. On pourrait dire que, d'une façon générale, d'ailleurs, je ne sais plus quel théoricien d'art disait que le plaisir esthétique, c'était une promesse qui ne se réalisait pas. C'est la tension vers, justement, un désir qui n'aboutissait pas. Voilà. Et là, vous voyez aussi la petite touche rouge. Alors, je continue. Alors, évidemment, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est ces monuments. On va retrouver la même structure sur la cathédrale de Vire, le château de Pierrefonds avant et après la restauration de Viollet-le-Duc. Hein, donc, là, c'est pendant les travaux, ça c'est après et ça c'est avant. Et on voit que Viollet-le-Duc a été très loin dans la rénovation, hein, puisque il n'y avait pas grand chose, c'était l'occasion de valider un peu ses théories et sa vision du Moyen-Âge, qui était redécouvert lui aussi au XIXe siècle. Alors, vous voyez que donc c'est un artiste qui a aussi des structures dans sa composition. Alors là, Marcoussis en haut encore, donc je ne sais pas combien de temps il a séjourné, mais c'est un lieu aussi proche de Paris. Qui, j'imagine, est peut-être encore plus rural, et certainement beaucoup plus rural que maintenant. Et les compositions horizontales, ça c'est un peu panoramique. Hein, tantôt il fait vertical, tantôt horizontal, ça c'est clair aussi. Et toujours une infinie variation des gris verts, hein, et jamais dans le spectaculaire. Alors, je vais arriver bientôt à ces camarades. Ici. Fameuse avec la fleur. Alors celui-là, j'ai mis en grand parce que je le trouve très beau dans la finesse. Et puis, on verra justement plus tard, tout à l'heure, avec quelqu'un comme Jean-François Millet et d'autres, les personnages qu'ils représentent sont des gens, c'est pas du tout des héros, c'est pas des princes, etc., c'est pas des riches, c'est pas des bourgeois, c'est des gens de la campagne. Hein, c'est des gens qui se baladent, c'est des gens qui travaillent, c'est des gardeuses de vaches, des gardeuses de moutons, des jeunes carriers, des enfants, ici des femmes en train de travailler dans les champs, avec quelque chose qui est très beau, c'est la pause aussi, tout d'un coup, cette femme qui s'arrête et qui semble regarder, hein, celle-ci aussi, comme si on était dans un instant. Ça, c'est quelque chose aussi qui, chez lui, commence à poindre. Quand vous aviez des paysages spectaculaires, des paysages romantiques, c'était des véritables scènes qui étaient une sorte de durée. Avec Corot, il y a une dimension climatique, hein, qui est relativement nouvelle, c'est qu'on est dans une heure du jour. Alors, il choisit, c'est pas le matin, c'est pas le soir souvent, mais un léger moment suspendu. Ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau, qui rencontre la problématique de la photographie, qui est en train de naître à la même époque. La photographie aussi, on saisit l'instant, on saisit la lumière, on est dans des nuances de gris, et l'idée du cadrage, l'idée de saisir l'instant, c'est quelque chose qui va devenir un enjeu de la peinture. Et là, dans celle-ci, vous voyez aussi ce que je vous dis tout à l'heure, c'est la générosité des surfaces. Et même, regardez là, c'est exceptionnel, c'est assez rare, la toile non peinte. Alors que la peinture est parfaitement achevée, on ne va pas la reprendre, ce n'est pas une ébauche, ce n'est pas une esquisse, mais on voit le grain. Il va utiliser même le grain de la toile pour faire un effet de lumière. Et il n'est pas dans l'idée forcément de tout finir, de tout contrôler. Il y a, dans le travail de Corot, de sa contemplation, une certaine lâcher-prise qui, je vous dis, n'est pas du tout dans la tradition 19e des peintres académiques ou même de l'idéologie dominante où il faut tout contrôler, tout maîtriser. Alors, évidemment, on peut penser dans ce qui est de la contemplation, au grand peintre romantique allemand, Caspar David Friedrich, il ne s'agit pas de Corot du tout ici, mais c'est quand même cette espèce de réinvention de la nature ou du paysage qui est sage et très équilibré chez Corot, et parfois beaucoup plus lyrique, comme par exemple Caspar David Friedrich, où vous avez des paysages, cette fois-ci, spectaculaires, hein, la hauteur, le lointain, le soleil couchant, la montagne, hein, ou les falaises, vous avez vu l'année dernière, quand on a vu Turner, vous avez toujours une dimension spectaculaire. Vous voyez le rapport au paysage, il y a une sorte de gradation, et Friedrich est dans la contemplation avec des personnages vus de dos, hein, et évidemment, là encore, Friedrich, voyageur devant une mer de nuages, à gauche, et puis encore des voyageurs, alors, cette idée du chemin, on s'arrête, et tout d'un coup, on contemple cette espèce de puissance de la nature qui vous emporte. Et là, on est, vous voyez, un sentiment différent, une technique différente aussi, puisque là, il ne s'agit pas d'être dans un laisser-aller, hein, la Caspar David Friedrich maîtrise toute surface, parce que là, on est vraiment dans une sorte de volonté de puissance, hein, c'est quasiment contemporain. Enfin, plus tard, ce sera Nietzsche, etc., ou tout ce qu'on veut, mais cette puissance qui rentre dans le corps, hein, qui est une sorte d'échange. Alors, c'est la perte du religieux aussi qui fait voir chez Caspar David Friedrich la nature comme un absolu, hein, une sorte de le sublime, ce sont des notions aussi qui vont naître en Allemagne, hein, et que l'on voit ici, avec une nature effectivement infinie, mais que l'on peut capter et avec laquelle on peut être en dialogue. Donc, vous voyez des thématiques qui peuvent être proches, mais traitées de façon très différente, avec Corot et Bécluse, dans un certain naturalisme. Alors, justement, je reviens un petit peu au Corot. Et vous voyez sa façon de structurer, d'occuper toujours son rectangle. Le rectangle de sa page, ici le chemin, les arbres, etc. Le chemin, un arbre qui structure, une perspective et le pont. Hein, alors, le Louvre, etc. Alors, les carnets de profil, il y en a des tonnes. Hein. Je vous ai montré quelques exemples. Si vous voulez tout regarder, il y a sur le site Base Joconde, je ne sais pas si vous connaissez, Base Joconde, c'est très intéressant, c'est une mutualisation de tous les musées français, musées nationaux, et vous avez notamment les carnets de dessin de Corot, mais je crois qu'il y a 800 pages.
Oula.
J'ai jamais téléchargé plus de la moitié, je crois. Donc, des carnets de croquis, j'ai quasiment tout récupéré, parce que tous ces carnets sont numérisés. Et alors là, on voit justement le côté systématique un petit peu de là, c'est un extrait hein, de ça. Du crayon, etc.
Vache au compte.
Bas Joconde. Là, vous tapez Bas Joconde et il y a le logo République française, ouais. Le blanc rouge Marianne.
C'est pas les impôts.
Non, c'est pas les impôts, mais c'est pas. Et alors là, il faut rentrer coraux, dessin, il y a plusieurs catégories. Et vous avez comme ça, c'est comme ça aussi, Delacroix, hein, vous avez tous les carnets d'Orient de Delacroix qui sont là. Vous avez des carnets de dessin de Odilon Redon aussi qui sont en entier. Vous avez des. C'est, mais par contre, c'est chronophage. Donc, ces carnets de dessin, évidemment, qui sont. Alors, regardez d'ailleurs, celui-ci est intéressant parce qu'il y a une mise au carreau. Donc, il y a une mise au carreau. Donc, on comprend aussi que cette sensation de légèreté, elle est construite, évidemment. Peinture, il ne la fait pas sur place. Enfin, il va sur place, il fait des croquis, etc. Ce sera un des premiers aussi à aller sur le motif, avec aussi à Barbizon, hein, et à Bourg-Marlotte, c'est la forêt de Fontainebleau. C'est des artistes qui vont commencer à réussir sur le terrain. Je crois que je vous l'avais dit pour Turner, mais ça commence à être possible. Bon, déjà, avec l'aquarelle, ça se faisait. Mais parce que la peinture à l'huile peut se mettre en tube, commence à être mise dans des tubes. Et donc, les tubes, elles peuvent être transportées. On n'est plus obligé de broyer dans des coupelles, dans des petits sacs, etc. Turner avait fait lui-même des espèces de sacs bien fermés pour pouvoir parfois aller peindre dans la nature. Mais c'est quelque chose que Corot va commencer, Courbet aussi. Hein. Ça doit aussi d'être dans le paysage. C'est une façon aussi de mieux le comprendre. Mais il y a chez Corot, hein, quelqu'un qui reste aussi dans une certaine tradition. Le croquis permet de saisir l'esprit d'un lieu pour le traduire ensuite par la peinture. Alors voilà, hein, des petits carnets, comme je vous disais, et quand je disais des masses, hein, quand il saisit dans le paysage des grandes lignes, de façon à composer. Hein, et comme ça, c'est assez drôle, hein, parce que c'est. On a l'impression que quand on voit les peintures de Corot, il n'y a pas de dessin, on a l'impression que c'est juste des surfaces, des lumières, etc. Mais on oublie qu'en fait, il y a aussi des structures qui sont pensées et que l'on voit dans les croquis. Dans les croquis, il va dessiner les grandes lignes. Masse, qui occupait la surface de son rectangle peint, son tableau, et ensuite la peinture va donner la lumière et la couleur à ces grandes surfaces qui sont presque non dites dans ces carnets. Et voilà encore d'autres dessins remarquables, et on voit la liberté, hein, et on voit aussi qu'il est de temps en temps il s'attarde pour effectivement les effets d'ombre et de lumière, parfois c'est au contraire les très grandes lignes, et alors là il y en a des centaines. Et celle-ci, c'est presque encore plus abstraite. Une vision synthétique. Hein. Et plus tard, on verra ça aussi chez Gauguin. Hein, de voir des grandes masses, y compris le cloisonné, etc. Et là, c'est très clair. Hein. C'est même exceptionnel. Il change de crayon, donc c'est aussi un travail. On voit une pensée artistique à l'œuvre. Hein. Alors, comme je vous le disais, il y a chez lui, parfois, de temps en temps, il sait aussi que pour les salons, pour des clients, il y aura aussi des clients qui vont lui demander des décorations d'intérieur, etc. Vous avez des thèmes qui vont être ici poétiques, comme Orphée, hein, donc une certaine mélancolie. Alors, dans ces sujets-là, il y aura plus de mélancolie. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il y aura cette idée un peu des souvenirs, que l'on verra plus souvent, comme ici Orphée, avec effectivement un jour plus finissant, etc. Alors justement, les souvenirs, c'est plutôt vers la fin de sa vie. Il y a les chemins, on a vu la contemplation, et il y aura beaucoup de sujets autour du souvenir de certains lieux. Alors, c'est assez drôle parce que il a beaucoup travaillé sur place, mais on a comme l'impression qu'il utilise justement ses carnets pour reconstituer des souvenirs. Il a une telle science, on va dire, de la lumière, de la touche, du paysage, qu'il est capable de reconstituer des paysages, avec souvent, cette fois-ci, une dimension plus nostalgique et mélancolique, alors peut-être avec l'âge, etc. Alors, sans qu'il soit ni malheureux ni tragique, Corot, il n'y a presque rien à dire, c'est pas du tout une biographie romantique, en plus, il est plutôt joyeux compagnon, il sera très attentif à plein d'amis, il va valoriser des très jeunes avec lesquels il va s'associer presque pour leur donner des coups de pouce, il va à Bourg-en-Marlotte, en Gironde avec Courbet, puis je vous en parlerai plus tard, etc. C'est quelqu'un qui va aider ses amis, donc il fera bénéficier ses amis de sa notoriété. Donc, si vous voulez, les souvenirs, c'est plus peut-être qu'il voyage un peu moins. À 64, il commence à être un peu plus âgé. Et là, il y a quelque chose alors, qui est très très beau. Le flou, tout d'un coup, prend une valeur, on va dire, métaphorique aussi du souvenir, quelque chose qui, justement, est imprécis. Et c'est là où il est capable de partir de ce qui était une sensation lumineuse vers quelque chose qui est plus poétique, hein, une certaine légère confusion. Et toujours, vous avez vu les couleurs. Alors là, c'est là où il est très fort. Là, vous avez trois couleurs primaires, discrètement, qui viennent dans cette espèce de grande zone de gris, de vert, de brun, de flou, qui viennent donner un petit contrepoint très justement coloré, comme ceci. Alors, souvenir de solitude et souvenir à Ville d'Avray. Alors là encore, vraiment superbe au niveau des tons et des valeurs. Alors ça, c'est aussi, Corot, c'est peut-être le dernier paysagiste, avec des gens comme Rousseau, de Barbizon, à utiliser aussi quand même l'ombre et le blanc et le noir. Parce que par la suite, on verra les impressionnistes, de ça de côté, pour traduire la lumière. Lui utilise encore, traite encore la lumière par les couleurs, mais aussi par les valeurs, hein, de sombre, de clair, etc. Comme on le voit ici, avec une grande subtilité. Du noir le plus profond, du gris et du blanc le plus absolu, comme ici. Et là aussi, vous voyez les petites taches rouges et jaunes, etc. Et le flou. Donc les souvenirs, on peut dire que c'est la troisième grande famille. Souvenirs de Ville d'Avray, parce qu'on l'a vu. Souvenirs d'Italie. Hein, donc c'est vraiment un travail. Et ceux-là, par contre, sont quasiment tous de la fin de sa vie. Donc c'est quelque chose qui correspond tout de même, l'idée du souvenir, à effectivement un âge vieillissant et puis souvenir de... Et alors ce qui est drôle, c'est que ces souvenirs d'Italie ne correspondent pas du tout au paysage italien qu'on a vu. Donc il y a une sorte de reconstruction aussi, hein, de plus mélancolique. Et là, avec presque des ombres chinoises, c'est-à-dire que là, vous avez quasiment à droite, c'est noir-blanc quasiment. Il y a des très légères nuances. Donc il explore, on va dire, gamme, hein, les surfaces de couleur jusqu'au travail de noir et blanc, c'est remarquable. Souvenir de Marcoussis, même, vous voyez Marcoussis, une charrette. Souvenir de Corbon, donc. Souvenir de Ville d'Avray, où là, il y a surtout les chemins, il y a quelque chose qui est un peu plus. Alors, par contre, je ne sais pas exactement pourquoi il appelle tout ceci souvenir. Est-ce que ce sont vraiment des choses reconstruites par la suite, en atelier, etc. Parce que Ville d'Avray, il n'en est pas loin. Parce que la même chose, il va mourir à Ville d'Avray. Pourquoi est-ce qu'il appelle ça souvenir? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ça, c'est quand même assez clair. Alors, Corot est aussi attentif à la modernité. Justement, il y a un de ses amis, parce qu'il va. Carvel d'Aligny, non, ça c'est Jean-François Daubigny. Daubigny, c'est un de ses amis qui est plus jeune que lui, mais qui va peindre, d'ailleurs on verra quelle est une de ses peintures, à Fontainebleau, puis il va voyager pas mal avec Corot, et qui va lui apprendre avec la technique photographique ce qu'on appelle les clichés verts. Et Corot va aussi expérimenter une technique extrêmement moderne du cliché vert. C'est une sorte de variante de la gravure. Alors, la technique est presque logique. Vous avez une plaque photosensible qui est recouverte d'un vernis opaque. Vous dessinez dessus, comme on fait en eau forte, en gravure. Vous grattez avec une pointe sèche sur un vernis. Et puis, au lieu de la tremper dans l'acide, eh bien, vous la révélez à la lumière. Et donc, la partie où le vernis a été gratté, elle va être modifiée chimiquement parce qu'elle était photosensible. Et ensuite, vous avez un fixatif, vous nettoyez le vernis et vous faites des tirages photographiques. C'est-à-dire des tirages papier, parce que vous avez une sorte de négatif, hein, sur une plaque blanche, comme ça, mais avec le dessin qui en va. Et là, vous pouvez faire des tirages multiples. Donc, c'est ce qu'ils appellent le cliché vert. Et alors, l'intérêt du cliché vert aussi, que c'est comme tout le truc photographique, c'est que ça peut faire des multiples. L'intérêt par rapport à la gravure, c'est qu'on peut aussi agrandir. Donc, on peut jouer aussi sur, puisqu'avec le principe de projection. Vous pouvez, alors, je ne crois pas qu'ils aient beaucoup joué sur l'agrandissement, parce que les papiers photosensibles, etc., les papiers photographiques, je crois que c'est quand même relativement rare, etc. Donc, la technique du cliché vert, il va expérimenter ça où là c'est intéressant parce que ce ne sont pas les croquis vite faits qui sont des croquis de recherche, on est dans quelque chose qui est entre le croquis et la peinture. On le voit d'ailleurs avec ces inventions, ces grilles, ces taches, ces touches, hein, qui sont plus poussées, on va dire, que dans ces dessins. Là d'ailleurs c'est un dessin de Daubigny, hein, son ami, qui va lui révéler ça. Et là on voit aussi le travail sur les grilles qui est très intéressant. Alors le cliché vert, moi j'en ai jamais vu directement. Alors dans ces années, il y a Daubigny, on verra Daubigny, il y aura Carmel Daubigny, il y aura etc. Vous avez quelqu'un comme Constant Dutilleux, qui est un nordiste d'Arras. Et d'ailleurs, il y aura une sorte d'école d'Arras, à laquelle Corot va participer. Dès qu'il peut aider des amis, il ira dans le Nord, assez souvent d'ailleurs, Corot, avec Dutilleux. Et Dutilleux, on le voit ici via Fontainebleau. Alors là, on voit l'influence directe de Corot sur ses amis. Quelque part, Corot fait aussi école. On voit ici, dans ces paysages, c'est très proche, jusque la tache rouge, y compris des personnages, le chemin, la Fontainebleau. C'est pas tout à fait la même patte, si vous voulez, la même touche, hein, puisque vous voyez quelque chose d'un peu plus vibrant ici, peut-être un petit peu moins virtuose encore que. Donc, ça, c'est remarquable. Et on voit aussi la frontalité, et la touche remarquable, et les gris, et les bruns, des mousses et des bruyères de Fontainebleau, assez remarquable. Donc Dutilleux, Carmel d'Aligny, alors lui qui est vraiment un des amis, alors là il est quasiment le contemporain, c'est qu'avec Carmel d'Aligny, il va faire des voyages en Italie, il va faire des choses comme ça, donc, mais vous voyez que Carmel d'Aligny, qui est son exact contemporain, qui sera son ami, regardez la différence de traitement. On voit chez Carmel d'Aligny quelque chose de beaucoup plus classique, 18e et même 19e classique. On voit la maîtrise, hein, il n'y a pas cette espèce de lâcher-prise à touche, de légèreté, on a une description, une définition bien plus précise, mais si on était dans le flou, on serait dans du courant. Alors Carmel d'Aligny, vous voyez, alors, certaines ébauches de Carmel d'Aligny, comme par exemple celle-ci, hein, sur le forum, sont quasiment comme des coraux, hein, alors que celle-ci, je zoome un peu, il y a le chemin, il y a la lumière, mais on est quand même un peu dans le spectaculaire aussi. Il cherche des sites, hein, qui ont quelque chose d'un peu plus grandiose, une dimension un peu exotique de l'Italie avec des costumes, qui chez Corot est toujours mis à distance, hein, puisqu'on n'est pas. On est, chez Corot, il y a plus quelque chose de plus intime, hein, on n'est pas dans le spectacle, alors que là, on est plus dans le spectacle, y compris parfois dans certains paysages qui sont grandioses. Mais ça, c'était pour vous montrer certaines variations. D'amis et même très proches, hein, de Corot. Alors, Carmel d'Aligny, il évolue aussi, hein, autour de Corot. Là, vous voyez justement les carrières à Fontainebleau. Hein, donc, on voit toujours les mêmes thèmes. Vous voyez que c'est un travail aussi de groupe. Hein, c'est que si Corot, dans sa peinture, on a l'impression d'une espèce de solitude, tranquillité, en fait, c'est aussi partagé, hein, puisque dans son travail de partage, et même il influence les gens, et puis cette idée de redécouvrir des endroits qui sont, on va dire, nouveaux et qui sont ressourçants, ça se trouve dans ce domaine d'école. À ce point d'ailleurs que le groupe de Marlotte, je ne sais pas si vous connaissez la charmante ville de Bourg-Marlotte qui est au sud de Fontainebleau, entre Fontainebleau et Grès-sur-Loing, Moret-sur-Loing, enfin, ce coin-là un petit peu. Très joli village, je vous incite à y aller. D'ailleurs, Renoir y a tourné la partie de campagne. Il y a beaucoup d'artistes qui vont séjourner là-bas. Et c'est très joli, très cher. Des belles maisons. C'est assez protégé. Hein. Donc, Marlotte. D'ailleurs, et le groupe de Marlotte se constitue à Bourg-Marlotte pour fuir Barbizon, qui n'est pas loin, mais qui était déjà trop grand. Et puis, ils trouvaient qu'il y avait un peu trop de ce qu'ils appelaient les rapins, c'est-à-dire les artistes un peu ringards qui venaient là parce que c'était Barbizon, etc. Maintenant, je ne vous dis pas ce que c'est toujours joli, mais question art, c'est pas tout. Alors, Henri Arpigny, hein, Arpigny aussi, voilà encore un nom qu'on va trouver autour dans cette région, autour de Corot. Alors, ils sont plus jeunes, hein. Rappelez-vous que Corot est de toute fin 19e. Arpigny, 1819, c'est l'âge de Courbet, par exemple. C'est des gens qui sont un peu plus. D'ailleurs, c'est un que la peinture a conservé, parce que.
Oui.
ou 97. Hein, donc, vous voyez, l'influence de Corot, elle est multiple, hein, de Arras jusqu'à Fontainebleau. Attendez, celui-là, par contre. C'est Caruel d'Aligny. Alors, Caruel d'Aligny, lui, c'est toujours le contemporain aussi de Corot, et d'Aubigny, d'Aligny, etc. Et là, vous voyez des peintures intéressantes parce que elles sont panoramiques, très allongées, et des peintures qui sont de l'ordre un peu du croquis et de la recherche. Caruel d'Aligny. Alors, évidemment, dans le coin, vous avez alors, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, mais qui se rapproche quand même, c'est Sisley, qui lui va résider longtemps à Moret-sur-Loing, c'est aussi cette région. Donc vous avez Sisley, alors Moret-sur-Loing, je vous incite aussi à y aller, c'est joli, les bords du Loing sont magnifiques. Et vous voyez d'ailleurs chez Sisley les chemins, on retrouve les chemins, hein, on trouve cette balade, les promenades. On n'est pas du tout dans les couleurs de Corot, on a quelque chose qui va progressivement être plus léger, y compris au niveau de la touche. Hein, on n'est pas loin d'une approche presque aquarellée, hein, qui fera beaucoup, etc. Alors Alfred Sisley, on le verra plus tard aussi, parce que c'est quelqu'un qui aura pas mal d'importance. Hein. Alors Sisley, d'ailleurs, sera un des plus jeunes de l'école de Marlotte. D'ailleurs, voilà les maisons de Bourreau-Marlotte. Alors, maintenant, elles sont toutes crépies, habitées par les Parisiens ou les Anglais. Mais il y a eu beaucoup de paysans. Mais alors, voilà. Alors, ces artistes ne cherchaient pas uniquement le paysage. Hein, ils cherchaient aussi la proximité d'une population, on va dire, authentique, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose qu'on trouvera plus tard chez Gauguin, hein, y compris, et chez d'autres. C'est cette idée aussi d'aller auprès d'une population qui soit encore... non seulement le paysage est authentique, l'architecture, la lumière, mais les gens. Hein, et d'ailleurs... souvent, ils séjournent dans des auberges, comme l'auberge Gannes à Barbizon, qui sont une auberge tenue par les... comme Gauguin ensuite chez la Belle Angèle, etc., à Pont-Aven. Donc vous avez derrière tout ça aussi une attitude devant la vie, le siècle, la modernité. Vous voyez, ce n'est pas une fuite totale, puisque c'est quand même des artistes qui proposent leur peinture aussi dans les salons, qui sont même reconnus, hein, puisque... Corot, d'ailleurs, finira sa vie riche, même très riche, hein, mais très généreux, on le verra tout à l'heure. Alors, d'Aubigny, hein, donc, effectivement, ça j'en ai déjà parlé. Celui-ci, là, attendez, par contre, je ne sais plus qui c'est. C'est d'Aubigny. Donc, j'aurais dû mettre le nom. Et là, vous voyez, alors, l'influence de Corot se fait sentir, y compris dans la touche, hein, le flou, etc. Et les tonalités colorées. Alors, ça, c'est je pense que c'est. Alors, ouf, toujours d'Aubigny, à Montigny-sur-Loing, donc on est aussi dans la région du Loing, hein, très belle région. Là, toujours Charles-François d'Aubigny, alors ça c'est remarquable au niveau de la lumière et du reflet, ouais. Hein, la surface de l'eau. Donc vous voyez, Corot, c'est vraiment un monde autour de lui, avec lui. Alors d'Aubigny, d'ailleurs, ça par contre, j'ai jamais vu. Alors une autre ville, vous voyez, en fait, il y a des villes qui sont des points de repère, ça c'est Auvers-sur-Oise. Plus tard, c'est pas hasard si Van Gogh y va, parce qu'il y a déjà le docteur Gachet qui est intéressé par la peinture, qui va l'accueillir. Donc, vous avez Moret, Barbizon, Bourreau-Marlotte, etc., ou Auvers, ce sont tout ça des villes périphériques de Paris qui sont habitées et redécouvertes aussi par des peintres. Et là, c'est l'atelier de d'Aubigny, hein, qui est remarquable, et il explore la dimension décorative, y compris du paysage. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a le paysage comme sujet, hein, on va dire avec cette mélancolie, la douceur, la sérénité, ou la nature. Et puis, vous avez aussi la capacité, le potentiel décoratif du paysage qui revient à la mode, alors que pendant longtemps, c'était des scènes mythologiques, c'était des postures, c'était des dieux, des déesses, etc. Vous aviez souvent des scènes, ou des architectures. Et là, Dominique, pour son propre atelier, que je n'ai jamais visité, mais à mon avis, ça vaut le coup d'y aller, hein, c'est donc à Auvers-sur-Oise, évidemment. Alors, à Barbizon, vous allez avoir effectivement, là, une école qui va un peu se spécifier, quelqu'un comme Théodore Rousseau, qui lui alors, va rester beaucoup autour de la forêt, c'est le Michel-Ange des chênes, dit-on de lui. Hein, alors il est il est moins séduisant, pourrait-on dire, parce que ses effets de lumière sont parfois très sombres, et à la limite de l'austère. Il est capable d'aller faire un véritable portrait de certains arbres, on parle de Michel-Ange, dans lequel la peinture a dû noircir, mais il est capable de traiter vraiment des l'ombre, hein, de façon presque scrutant les moindres nuances. Donc il a un style un peu particulier dans ce rapport à la nature. Peu plus radical, on va dire, hein, dans cette espèce de... Et qui nous impose, si on veut apprécier les théories de Rousseau, il faut accepter qu'en prime de les regarder longtemps et de rentrer dedans. Parce qu'on va dire qu'au premier plan, c'est pas... Il n'y a pas cette espèce de légèreté, de douceur, de belle lumière qu'il y a toujours chez Corot, qui est une sorte de grande sérénité. Chez Rousseau, regardez, la belle lumière, elle est à côté, mais il y a ce chêne, souvent, qui s'impose un peu, toujours, hein, avec une forme de barrage, comme ici, au printemps, les nuages. Donc, autour du paysage, j'ai des artistes aussi qui vont... là, c'est encore Rousseau, vous voyez, alors lui, il va utiliser lune, soleil, couchant, etc. Donc, autour du paysage, je fais aussi des variations. Là, c'est toujours Rousseau, quand on dit de quelque chose qui est a priori pas accueillant, cette espèce de boulingrin, de chaînes gigantesques qui font une masse d'ombre totale. Il faut scruter, il faut accepter, il faut se plonger et avec lenteur. On n'est pas du tout dans le spectaculaire, au contraire. Même la dimension narrative est réduite à cette espèce de perspective qu'on avait de la peine avec des tout petits personnages qui sont à peine éclairés dans l'ombre. Donc, alors, Rousseau, c'est quelqu'un qui aide peut-être à comprendre aussi quelqu'un comme Cézanne. Cézanne, qui souvent peut paraître austère, hein, mais qu'on va apprécier en acceptant de prendre du temps aussi. Pour le saisir. Donc, Théodore Rousseau, un des grands. Alors celui-ci est religieux Rousseau. Hein. Et puis alors enfin, Jean-François. Le grand Jean-François Millet, qui lui, du paysage, si vous voulez, va évoluer vers quelque chose d'autre. Cette peinture, d'ailleurs, connue, c'est le verger et l'orage. Verger potager sous l'orage. Et je ne sais pas s'il a été refusé au salon de peinture. Alors le salon, juste un truc, c'est un peu comme le festival de Cannes, si vous voulez, pour les peintres. Ouais. Voilà, il y avait des refusés, il y avait ceux qui étaient amis, puis il y avait ça faisait, il y avait les critiques, il y avait les journaux, etc. C'était un événement extraordinaire. Et certains peintres pouvaient être acceptés, puis une année suivante refusés, mais certaines de leurs œuvres étaient prises, d'autres étaient refusées. Plus tard, il y aura le salon des refusés. On sait que Courbet avait même. On dit, il m'embête, j'ouvre ma propre exposition, pavillon réaliste, pavillon Gustave Courbet. Il a fait construire en dur un pavillon pour montrer ses peintures. Donc il y a aussi une contestation qui se fait du goût officiel, hein, de l'académisme. Tu aurais dit que celle-ci a été critiquée, alors qu'on pourrait dire que c'est de toutes celles que je vais construire jusqu'à présent, celle qui, du point de vue de la lumière, est la plus extraordinaire, avec l'orage, avec la lumière, avec le premier plan, avec les arbres au loin, les arbres au plan, le ciel gris, les arbres, peindre un arc-en-ciel, prodigieux, etc. Et pour la raison simple, qui semble hallucinante, c'est que ce n'était pas un beau paysage, que c'était un potager. Et un potager, c'est un lieu de travail. Un lieu de travail, ça ne peut pas être beau. Et tout d'un coup, avec Millet, on revient sur la problématique aussi du travail. Et de cette espèce de dissociation, le monde du travail ne peut pas être beau. Le monde du travail, il est laid, il n'est pas beau, on lui met du métal, on les cache, on ne les montre pas, ils sont laids, ils ne sont pas beaux, ils sont sales, ils sont méchants, ils sont dangereux, je ne caricature pas, ils sont alcooliques, ils sont incestueux, ils sont tout ce qu'on veut. Voilà. Et ils cassent tout, ce qui était vrai en plus, et donc ça ne peut pas être beau. Alors que... Et évidemment, pour Jean-François Millet n'était pas dans la revendication, lui. Il sera même souvent surpris de ce qu'on lui fait dire. Parce que Millet, lui, est d'origine provinciale, il est d'un petit village à côté de Cherbourg, dans la Manche. Il est repéré par à l'école. Le curé du coin lui dit, mais t'es doué, mon petit gars, tu vas aller apprendre le dessin. De dessin, il va à l'école des Beaux-Arts de Cherbourg. De Cherbourg, il va à Paris. Et à Paris, le monde parisien, en fait, il va très vite... aller du côté de Barbizon, justement, où là, il va retrouver un peu la campagne, qui est son milieu d'origine. Donc, quand lui, il peint ça, c'est ce qu'il connaît. Pour lui, il n'y a pas du tout de revendication. Chez Millet, le paysage, c'est un paysage intime, c'est un paysage quotidien, c'est pas dans la revendication, C'est en ce sens-là qu'on peut assimiler ce qu'on ne pouvait pas faire tout à fait avec Corot, mais il est un des premiers réalistes. Comme Courbet, c'est que lui, il peint ce qu'il connaît. Courbet aussi peignait ce qu'il voulait. Alors lui, Courbet affirmait de façon très claire qu'il peignait son monde, ses proches. Millet le dit pas, mais le fait. Et avec, par contre, quelque chose qui est une sensibilité extrême à cette espèce de beauté quotidienne, hein, qui peut, y compris, que tout le monde peut voir, là aussi. Alors là, il y a quelque chose que les bourgeois n'aiment pas, c'est l'idée que des paysans puissent avoir accès à une beauté comme ça, gratuite, au boulot, chez eux. Parce que c'est pas possible. Avoir accès à la beauté, c'est un privilège de classe. C'est un privilège social. La culture, les musées, ça. Montrer que un paysan le matin, sous la pluie, un orage, en plein après-midi, il peut tout d'un coup être émerveillé par le paysage et la nature autour de lui, c'est difficile à accepter. Donc je reviendrai. Tiens, pourquoi il était là, d'ailleurs ? Attendez. Attendez, j'ai... Ah oui, si, c'est bon. En fait, la précédente aurait dû être avant, mais je fais, excusez-moi, j'ai oublié de parler du Gronde, j'ai oublié le nom de Port Berthaud. C'est parce qu'il y avait des artistes, dont Courbet, qu'on a déjà vu l'année dernière. Et il y a l'artiste qui s'appelle Auguin et Pradel. Et en fait, c'est Corot. En 1860, il est âgé. Hein. Il est âgé. À l'époque, il a plus de 60 ans, donc, comme certains d'entre vous ici. Donc, c'est quelqu'un qui est jeune. À cet âge-là, il se lance quand même dans l'aventure de créer un petit groupe autour de lui, avec des plus jeunes que lui. Courbet est plus jeune, Auguin aussi, Pradel aussi. Et ça, c'était du côté de la Gironde. Donc, mais je reviens à Millet, puisque j'y étais. Alors, Millet, là, on n'est plus tout à fait dans l'approche de Corot, mais cette peinture ici, avec cette gardeuse de moutons, là, on en parlait tout à l'heure, hein, des gardeuses de moutons de la forêt ou des landes de Fontainebleau ou de Barbizon. Alors là où c'est extraordinaire, c'est le premier plan, justement. Puisque vous avez, effectivement, il n'y a quasiment pas de ligne d'horizon. Hein, vous avez le ciel, et puis vous avez le premier plan comme une surface de taches, une surface qu'on aurait pu, hein, avec des touches, des taches, des tons, etc. La petite silhouette ici en rouge et les couleurs primaires, ça on le verra toujours chez Millet, le rouge, le bleu, le jaune, etc. Et puis les bruns, les gris, etc. Et on peut dire que là, on est dans l'antispectaculaire total, puisque, effectivement, une petite colline avec cette jeune femme, etc. Juste un petit truc. Plus tard, c'est bête, c'est en la regardant que ça me fait penser. On connaissait toutes la jeune femme, les deux versions des jeunes femmes à l'ombrelle de Monet, hein, qui sont aussi en contre-plongée dans le ciel bleu avec le vent, etc. Millet, pas loin de cela, etc. Alors Jean-François Millet, justement, lui, va aller vers des sujets qui sont là encore des sujets du monde du travail, comme par exemple un clair de lune, de nuit, quelque chose qui est vraiment non spectaculaire, parce qu'on n'est pas du tout dans du Caspar David Friedrich, avec, on voit à peine le berger qui rentre, qui sort ses moutons, etc., qu'on devine à peine aussi dans la pénombre, mais des moments de grâce, de lumière et de beauté, de pleine lune, comme ça, de lune, et qui sont d'une simplicité absolue. Alors là, à la différence de Bachin, enfin de Corot, la composition est minimaliste. Je sais pas quoi, chez Millet, alors, paf, vous avez quasiment quoi ? Un horizon, légèrement courbe, le cercle, le cercle de la Lune, et c'est tout. Par contre, c'est un travail de surface prodigieux, comme par exemple ici. Corot, alors, Millet, vous avez une ligne d'horizon, le ciel et la plaine totale, avec des touffes, etc. Juste un petit et un vol d'étourneaux ou d'oiseaux dessus, etc. Donc vous voyez que Millet a une certaine radicalité, hein, dans son point de vue, mais qui n'est pas démonstrative, puisque lui, c'est vraiment la contemplation, ben, de la lumière, du quotidien, dans des moments un peu choisis, par contre, comme des moments qui seraient privilégiés pour ceux qui travaillent. Il y a quand même cette dimension-là chez lui. Alors juste, j'ai mis pour bien m'en souvenir et pour rappeler, c'est que il y a un lien à Corot-Millet, c'est que Corot sort avoir dans Jean-François Millet un peintre remarquable, bien qu'il soit différent de lui, il fréquente quand même Barbizon, etc. Mais ils ont un esprit différent. Mais Millet, lui, aura du mal à vendre sa peinture, il sera quand même connu, mais il va finir très pauvre, Quand il meurt, d'ailleurs, sa femme et ses enfants qui vivent à Barbizon quasiment, mais presque dans une sorte de ferme-atelier, ont tellement peu de sous que Corot donne 10 000 francs, qui est une très très grosse somme. Et vous verrez d'ailleurs qu'il donnera aussi à d'autres artistes différents de lui. Millet d'ailleurs, plus tard, il y aura même une pétition faite par Manet et d'autres pour que l'État donne une subvention à la famille de Millet, comme un grand peintre un peu négligé par les institutions, donc, pour pas qu'il soit dans la misère, et que sa famille soit dans la misère. Vous voyez, mais Corot est un de ceux qui a initié cette générosité. Alors, avec Millet, on est dans le monde du travail cette fois-ci. On est dans le monde du travail de façon très très claire, alors on n'est plus vraiment dans le paysage. On voit aussi comment est-ce qu'il travaille sa composition de façon remarquable, avec le cribleur de blé, avec un passage, ici on peut dire, d'une première étude qui est moins structurée, avec toujours le rouge, le bleu et le jaune, qui sont ici, donc trois couleurs primaires qui sont bien dissociées, le noir et le blanc, et avec lui, des masses, etc. Dans la deuxième version, on est dans une structure beaucoup plus composée, presque un Y, avec un nœud ici qui se passe ici. Le rouge est plus discret, c'est la ceinture rouge sur le bleu, enfin là on ne voit pas trop, c'est quand même légèrement rouge, et le jaune, l'ocre, etc. Donc là on est dans quelque chose qui se rapproche de Chardin, hein. On peut dire qu'on est dans une sorte de continuité Chardin, dans une transition. Donc voilà, Corot, un personnage à part. Alors le monde du travail, cette fois-ci ce qui était tout petit chez Corot devient grand, et même monumentalisé chez Millet, avec une sorte d'hommage rendu à ceux qui travaillent la terre, hein, au monde paysan, qui est perçu de façon très ambiguë d'ailleurs, parce que Baudelaire, qui aimait beaucoup Courbet, par exemple, c'est un ami proche de Courbet, va détester Millet parce qu'il croit que Millet est dans la plainte de la souffrance des pauvres paysans. Alors Baudelaire n'aime pas ça du tout, hein, ce côté qui est un dandy, montant, etc. Ces paysans crado qui se plaignent, etc. Et Millet qui vient larmoyer, il a l'impression que c'est un truc, je sais pas, trop religieux, trop plein d'empathie, qui attire l'arbre. Mais ce qui n'est pas du tout le point de vue de Millet, parce que pour Millet, c'est le monde qu'il connaît, c'est tout. Il peint les gens qui travaillent. Mais c'est le premier à peindre aussi un travail, cette fois-ci, qui est dur aussi. Hein, qui est dur, qui est fatigant, mais en même temps, comme dit l'autre, c'est qu'on est en harmonie. C'est un travail qui sert à quelque chose. Qui est omis, qui est dans la nature, dans la terre, et cette idée d'être aussi dans une sorte de permanence, c'est quelque chose, évidemment, alors on les connaît tous, et c'est pas hasard. Si tous les paysans de France ont cette reproduction, ces reproductions chez eux, dans les boîtes de chocolat, dans les trucs, dans les cafés, parce qu'ils s'y reconnaissent complètement, une sorte de monumentalisation magnifique, hein. Avec les glaneuses, qui est nulle. Alors là, il y a une composition dans un paysage qui est, on va dire, nul. Enfin, nul, il n'y a rien. Rien de spectaculaire, apparemment. Si ce n'est justement cette lumière magique. Alors là, vous y allez à Barbizon, c'est toujours la même lumière. Il y a toujours les champs travaillés, il y a toujours les perspectives, on voit au loin les charrettes, parce que si c'est des cageots, etc. Mais on voit des gens qui se pensent. On est dans du Millet, vous avez un Barbizon, Chaillé-en-Bière, on est totalement dans cette lumière qui est exactement la même. Alors lui, regardez comment il monumentalise et il met en scène aussi. Il y a une dimension sociale, c'est pour ça que ça va nous rapprocher aussi de Daumier, tout à l'heure, ou la semaine prochaine. Il met en scène, là, les personnages qui sont les plus bas de l'échelle sociale, parce que ceux qui sont dans l'échelle sociale, plus les régisseurs des grandes fermes qui sont sur cheval, vous avez, on va dire, les paysans fermiers qui sont en train de couper, botteler, ramasser les foins, et les glaneuses, c'est vraiment les plus pauvres, à qui on permet juste d'aller ramasser les grains par la suite. Mais il est au premier plan, il est monumentalisé par l'ombre et la lumière, elles sont massives, etc. Avec les trois couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune, sur les bonnets, qui aussi, comme je l'ai dit, donne une sorte de tonalité dans cette espèce de, voilà, de masse ocre, un petit peu du paysage, rien de spectaculaire, apparemment. Et puis un mouvement de balancier extraordinaire, où elles ne sont pas totalement frontales, il y a une légère courbe, il y a une légère ondulation, une légère perspective à gauche, un mouvement aussi d'un mec qui se lève, qui se baisse et qui ramasse, hein, comme une sorte de bascule remarquable. Et puis, un premier plan, une surface extraordinaire. Hein. Donc, alors, l'Angélus, là aussi, c'est passé pour quelque chose un petit peu cucu, mais là, au lieu d'une religion vite faite par les clérigots, les prêtres, etc., qui sont dans la domination, Là, vous avez une sorte de religion un peu primitive, intime, personne ne les regarde, ils encendent la cloche, et pour eux, c'est un rapport à la nature.
C'est la fin du travail.
Comment ?
Dans Jésus, c'est la fin du travail. Ça,
voilà,
et ça aussi. C'est la fin du travail.
Oui, c'est la fin du travail, donc.
C'est très important.
Là, c'est aussi cette idée que, bon, bah, on a travaillé, ça veut dire garde l'heure.
C'est la fin de la journée.
Et là, alors, cette espèce de rapport à la nature et à une religion qui accompagne justement le travail, etc., c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez Gauguin plus tard. Hein. C'est vraiment, c'est pas du tout la religion des cléricaux, on va dire, des prêtres, des institutions, de la morale, etc. C'est une idée d'une religion primitive qui n'est pas du tout ni dans le décorum, ni justement dans le spectaculaire. Alors, Millet, on le voit aussi, hein, ces personnages, souvent c'est des personnages anonymes. Il ne cherche pas du tout non plus les stéréotypes de beauté ou de physique, etc., dans le paysage. Là encore, on voit qu'il n'aime pas ça, lui, qui est dans l'érotisme, etc., là, ou même complexe, c'est les choses qu'il va souvent détester, et qui ne séduisent pas, on va dire, les bourgeois parisiens non plus. Donc Millet a une radicalité assez évidente. Alors, ça nous ramène à Daumier, hein, parce qu'en fait, si vous regardez bien, certaines peintures de Daumier, et ce qu'on a vu l'autre jour, et certaines peintures de Millet sont parfois très très proches. C'est aussi au niveau des masses, les formes rondes un petit peu, des lumières et des contre-jours, l'hommage rendu à des populations aussi qui ont leur propre plaisir, comme on voit par exemple le bain sur la Seine ici, sur les bords de Seine. Ils sont contemporains hein, d'ailleurs, et vous verrez aussi que Corot sera apprécié des deux. On pourrait dire que Daumier est encore plus libre, vous avez dit l'autre fois, parce que justement, comme il n'est pas considéré comme un peintre, ben il peint comme il veut. Il est surtout dessinateur, sculpteur, et donc, si vous voulez, dans sa peinture, c'est presque comme une sorte de loisir à part. Hein, il va quand même présenter parfois certaines peintures, mais elles sont presque trop modernes, parfois pour être acceptées. Puisque Daumier est complètement dans l'invention, hein, y compris la réhabilitation du dessin dans la peinture, ça c'est un des premiers à le faire, et on verra plus tard avec Degas et Toulouse-Lautrec. Alors voilà encore d'autres peintures, hein. Là encore vous avez un peuple qui a aussi ses propres loisirs, sur le bord de Seine, aller se baigner, le monde du travail. Alors ce qui intéresse aussi des gens comme Millet ou des gens comme Daumier, et ce qui intéresse aussi Courbet, c'est facile, ça met tout par « et », c'est que dans le monde du travail, vous avez des postures, des attitudes qui sont vraies. Ce n'est pas des poses. Mais quand on travaille, quand on est dans une activité, on n'est pas dans une pose artificielle. Donc vous avez non seulement le paysage est vrai, les lumières sont vraies, tout ça, c'est pas, et puis les attitudes des corps aussi sont vraies. Donc il y a une recherche comme ça d'une évidence, d'une réalité, d'une vérité qui est, qu'on trouve d'ailleurs chez Daumier avec la caricature. La caricature, c'est charger la vérité jusqu'à l'excès, mais pour bien révéler hein, les caractéristiques bien précises de chaque personne. Alors, on retrouve encore Corot avec Daumier, puisque Daumier devenant aveugle, et bien Corot lui achète une maison. Donc, vous avez cette générosité de Corot est assez extraordinaire. Hein, c'est que ses amis... et vous voyez aussi qu'il a des amis qui ne payent pas comme lui non plus. Vous avez les gens qui vont être proches de lui au niveau de l'esthétique, mais vous avez une sensibilité un petit peu marginale, comme ça, auprès de ses contemporains, qui est assez remarquable. Donc c'est aussi quelqu'un qui va marquer son époque, y compris par cette espèce d'attitude comme ça, où il n'est pas du tout ni dans la jalousie, ni dans le contraire, il est des plus jeunes, il est dans la concurrence, il n'est pas non plus dans un esprit d'école fermé. Et d'ailleurs, il donnera aussi, je ne sais plus combien, de milliers de francs aux populations, aux pauvres parisiens, victimes de la guerre de 70 et juste après la Commune de Paris aussi. Donc c'est quelqu'un qui... alors que dans sa peinture, on ne voit pas trop le côté populaire, il est très proche des artistes, justement, comme Corot et Millet. Alors, d'autres artistes, alors, soit antérieurs, soit qui ont parfois frôlé, on peut dire, le point de vue de Corot sans jamais le développer. J'ai découvert ces peintures de Jules Noël, qui est un peintre qui a beaucoup travaillé en Bretagne, Finistère, etc. C'est des petites études, c'est aussi des petites marines. Alors que, vous regardez les autres peintures de Jules Noël, c'est des peintures très académiques, des portes très détaillées, etc. Mais dans les études, vous trouvez, et c'est très rare sur la mer, hein, c'est très dur de peindre les bords de mer, etc., sur les rivières, et là vous avez une version un petit peu corotienne, hein, et bien des bords de mer de l'Atlantique et de la Manche en Bretagne. Donc, mais si vous regardez Jules Noël, vous trouverez il y a très, très, quelques petites études comme ça. Celles-ci sont à Quimper, au musée de Quimper. Alors vous avez quelqu'un qui était quasiment un contemporain, un peu plus ancien de Corot, mais vous voyez bien la différence avec Corot, du point de vue de la technique, c'est un peu comme on avait vu avec Daligny, plutôt. C'est Turpin de Cissé, de Crissé, qui est un peintre très représenté au musée d'Angers. Je me laisse à peu près les mêmes scènes, mais là on voit bien ce que je vous disais au niveau de la définition, de la description du dessin. Hein, ce qui fait que c'est remarquable, c'est comme construit. Lumière, etc. Mais il n'y a pas cette espèce de pâte, de flou, de posé, de magie de l'instant. Hein. Là, on voit bien cette espèce de durée. Hein. On n'est pas tellement dans le, on n'est pas dans le lâcher-prise, bien que on ne soit pas très éloigné de Corot au niveau des thèmes et des paysages. Alors, un que vous avez déjà présenté, qui est assez extraordinaire, c'est Pierre-Henri de Valenciennes, qui est plus ancien aussi, là je remonte dans le temps, des gens qui étaient des peintres considérés comme mineurs. Et je vous l'avais déjà montré quand on a vu Chardin. Alors, Pierre-Henri de Valenciennes est un peintre de cieux, essentiellement. Là, regardez ces peintures assez exceptionnelles, où justement, des études, et c'est très moderne. Alors, vous en avez au Louvre, elles sont discrètement dans un petit coin. Et alors c'était un peintre totalement, qui n'était pas du tout dans le néoclassicisme, dans les grandes scènes mythologiques, ou révolutionnaires, ou romantiques, mais qui pourtant a été un peintre valenciennes qui a formé justement un peu, qui a influencé l'école d'Arras. Et on va retrouver Henri de Valenciennes, l'école d'Arras, et puis justement Corot. Donc tous ces peintres un petit peu marginaux qui investissent le paysage à leur façon, comme par exemple ici, toujours Valenciennes. Et là, vous avez celui-ci notamment, hein, qui est remarquable, qui est très très moderne de composition. Et vous voyez, pour quelqu'un qui est vraiment en plein 18e. Alors, il me reste une minute. Et là aussi, si vous allez au Louvre, vous allez trouver ça. Mais c'est pareil, c'est caché tout en haut de l'aile Richelieu. C'est Peter Balck, qui est un peintre scandinave, mais qui a beaucoup travaillé en France et qui a exploré les paysages nordiques avec la, je crois que c'est la femme de Louis, la reine, je ne sais plus comment elle s'appelait, Hortense. Et il va ramener comme ça une sorte de carnet de voyage de ces aurores boréales, des cieux nordiques et des lumières nordiques, avec une présentation comme ça en série, même au Louvre, c'est présenté sur un format en bois, elles sont très très belles, et très peu connues. Et là, vous avez un art du paysage aussi assez exceptionnel, du voyage, etc. Alors, je barque un peu parce qu'il est là, mais j'ai terminé. Donc, voilà, je suis presque sûr que j'ai terminé, j'ai quoi avoir mon. Voilà. Donc si vous voulez aller voir ces artistes, le Louvre, hein, et... Ah ben c'est bon, je vais y aller là-dessus. Donc voilà, alors la semaine prochaine, on va voir une femme artiste, Marianne North. C'est très différent et assez stupéfiant, et ça sera autre chose. On sera encore dans la nature. Donc, c'est très une transition.